The one thing we need more than hope is action.
HE10, penser la conception technologique à partir du livre Prendre soin des milieux, paru aux éditions Matériologiques.
Rebonjour, vous êtes sur Graphite 94.9 ou Graphite.net. Je suis Stéphane Croza et je suis en direct en studio avec Pauline Blanc, Rose Cressot et Lucie Rousse-Lopaillet. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Alors, cette nouvelle émission s'inscrit dans le cadre du nouveau cours HE10, Penser la conception technologique, un cours réalisé en partenariat entre l'UTC, l'UTT et l'UTBM. Vous pouvez trouver plus d'informations sur librecours.net. Donc, tous les jeudis, entre 10h30 et midi environ, pendant un mois, donc cette semaine et encore trois autres semaines, eh bien, on va écouter 10 émissions qui vont interroger, re-questionner les conceptions de techniques modernes à l'aune du milieu associé. Alors ces techniques, on en verra diverses, on parlera de ferme verticale, on parlera de techniques de retenue d'eau ou méga-bassines, et on parlera aussi d'intelligence artificielle. Si vous avez écouté l'émission précédente, vous avez vu qu'on a déjà parlé d'armes non létales. Et là, on va parler de vidéosurveillance algorithmique. Alors, on va le faire avec un certain nombre de concepts. Par exemple, à travers les concepts d'enchaînement des techniques ou d'autonomie des techniques. Mais donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Lucie pour donc l'introduction de cette seconde émission, vidéosurveillance algorithmique, un exemple d'enchaînement des techniques, point d'interrogation.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Dans le cadre de notre émission, nous allons donc aborder le sujet de vidéosurveillance algorithmique dans le contexte de la reconnaissance de situations dites suspectes en France. C'est dans le cadre de l'enseignement HE10 que nous abordons différentes questions, dont celle de l'impact que peut générer une technique sur un milieu. Ayant choisi comme sujet d'étude la VSA, voici ce que nous pouvons vous présenter. Tout d'abord, qu'est-ce que la VSA ? Pour ceux qui ne le savent pas, VSA est l'acronyme de vidéosurveillance algorithmique. La VSA est une nouvelle méthode de vidéosurveillance qui fonctionne avec le réseau existant des caméras de surveillance. Il suffit d'y ajouter un algorithme de traitement vidéo. La VSA vise à analyser les images produites grâce à des logiciels utilisant l'intelligence artificielle afin d'alerter les forces de l'ordre lorsqu'un événement considéré comme suspect est détecté. Grâce à cette technologie, le flux vidéo est traité automatiquement et en temps réel. Son but est d'identifier automatiquement des comportements inhabituels ou des anomalies, avec l'idée que la machine va être plus performante et impartiale qu'un opérateur humain. Concrètement, il s'agit de technologies qui analysent en permanence nos comportements dans l'espace public pour les classer comme normaux ou suspects. Ces algorithmes sont basés sur le machine learning. Plutôt que de suivre des règles fixes établies par un programmeur, les algorithmes de machine learning analysent des données et ajustent automatiquement leurs modèles pour améliorer leur performance. Autrement dit, c'est comme s'ils apprenaient d'eux-mêmes. Les algorithmes de vidéosurveillance sont conçus pour reconnaître plus facilement les situations qu'ils rencontrent le plus souvent. Dans l'espace public, cela peut entraîner une analyse plus fréquente de certaines personnes régulièrement présentes dans ces espaces. Ces modèles reposent sur des critères établis par des êtres humains qui détermine à l'avance ce que la machine doit considérer comme suspect et nécessitant possiblement une intervention. Par exemple, l'absence de mouvement pendant une longue période crée une alerte. Donc rester assis sur un banc ou attendre dans un lieu public peut être interprété comme anormal. De la même manière, une personne qui passerait beaucoup de temps dans un espace public parce qu'elle y est contrainte, comme des personnes sans domicile, risque d'être plus ciblée, et d'autant plus si il ou elle mendie. Cela soulève des questions sur la définition des comportements dits normaux et sur la manière d'assurer que les algorithmes prennent en compte la diversité des situations sans accentuer les discriminations sur certains groupes. Si on augmente le nombre de comportements ou de situations considérées comme suspects par la VSA, cela pourrait conduire à une situation où la seule raison légitime d'être dans la rue serait de se déplacer d'un point A à un point B. Pour l'instant, les flux d'images générés par les caméras sont visualisés dans des centres de supervision urbains par des agents municipaux qui peuvent déclencher des alertes en cas de situation qui comporterait un risque. Vous comprendrez par contre, en écoutant la suite de notre podcast, qu'on ne peut pas savoir si ce sera encore le cas demain. Maintenant que nous avons fait un point de précision sur notre objet d'étude qu'est la VSA, passons à ses applications concrètes en France. En mai 2023, a été voté en procédure accélérée un article de loi autorisant l'expérimentation des caméras de surveillance dites intelligentes ou augmentées, principalement pour les Jeux Olympiques. La loi autorise donc la VSA à détecter les 8 cas suivants lors des JO. Présence d'objets abandonnés, présence ou utilisation d'armes, non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun, franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible, présence d'une personne au sol à la suite d'une chute, mouvement de foule, densité trop importante de personnes et enfin les départs de feu. L'expérimentation est autorisée jusqu'en mars 2025 pour des concerts, des festivités ou encore des matchs sportifs. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre français s'est dit favorable à la généralisation de la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques. Sans trop de surprises donc, la vidéosurveillance algorithmique, qui devait être temporaire, qui constituait un régime d'exception, pourrait devenir permanente. On pourrait donc croire que c'est pendant les JO que la VSA est utilisée pour la première fois en France. Mais en réalité, la VSA était déjà utilisée de manière tout à fait illégale dans de nombreuses villes françaises. Par contre, depuis les JO, les municipalités revendiquent leur utilisation. C'est d'ailleurs le cas de la ville de Compiègne. La municipalité fait part dans le journal de l'agglomération, datant d'octobre, de sa volonté d'augmenter le nombre de caméras de surveillance, passant de 96 à 123 sur la ville. Elle déclare s'être dotée de caméras intelligentes pour détecter des anomalies telles que des fumées, une voiture circulant sur une voie piétonne, un colis abandonné, le passage d'un individu dans des locaux supposés inoccupés. Ces caméras augmentées permettent également d'identifier des délinquants, leur itinéraire et leurs éventuels complices.
Nous allons à présent écouter un court extrait audio de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui s'exprimait le 25 septembre sur LCL au sujet de la vidéosurveillance algorithmique et de la prolongation de cette expérimentation. On peut noter qu'il utilise le terme de vidéoprotection, connoté bien plus positivement que celui de vidéosurveillance.
Évidemment, sur tous les grands événements, des opérateurs qui sont derrière des caméras de vidéoprotection. Et nous avons besoin d'une assistance qui permette qu'il soit une aide à l'opérateur, de manière à ce qu'un certain nombre d'événements qui sont limitativement énumérés par la loi, on a 8 cas, il n'y en a pas un de plus, c'est 8 cas donc, qui ont été déterminés, évidemment, et adoptés par le Parlement, et qui nous permettent d'avoir une aide aux opérateurs. C'est-à-dire, par exemple, quand on détecte un individu qui circule dans une zone où les personnes sont interdites, quand on détecte une densité de personnes supérieure à ce qui est prévu dans une zone, quand on détecte un flux de personnes qui va à contresens du flux qui est prévu, l'opérateur a une alerte. Nous sommes montés progressivement en puissance sur ce dispositif qui, je le pense, a démontré son utilité. À la préfecture de police, on gère des dizaines de milliers de caméras. Enfin, on a accès à des dizaines de milliers de caméras qui ne permettent qu'uniquement de faire de la surveillance de voie publique, uniquement, hein, en temps courant. C'est quand même très utile quand on a des violences et qu'il faut faire des enquêtes judiciaires ensuite. Hein. C'est beaucoup plus facile pour confondre des auteurs, parfois même pour les retrouver quand ils sont recherchés. Voilà. Non mais je le dis pour ceux qui contestent encore les bienfaits de la vidéoprotection. Les chiffres disent ça. 30% des interpellations, 30% des interpellations que nous réalisons dans les transports en commun, 30% sont réalisées grâce à la vidéoprotection. Combien d'enquêtes nous avons résolues grâce à la vidéoprotection? Combien d'auteurs nous avons confondus grâce à la vidéoprotection? Quel que soit le chiffre, quand vous arrivez à confondre l'auteur d'un crime grâce à la vidéoprotection, quel que soit le chiffre, c'est important. Voilà, pardon de cette position personnelle, mais je l'exprime aussi fermement. Quel que soit le chiffre, c'est important. Quand vous êtes comme moi confronté à des parents, des familles de victimes, et que vous êtes capable de retrouver l'auteur parce que vous avez eu de la vidéoprotection, vous êtes content d'avoir un outil de vidéoprotection.
Vous avez entendu que Laurent Nunez justifie l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique par le fait qu'aujourd'hui, à Paris, la préfecture de police compte plusieurs dizaines de milliers de caméras de surveillance dans l'espace public. La question de la pertinence de l'utilisation de ces caméras n'est pas soulevée. Les techniques de surveillance semblent s'enchaîner sans qu'on prenne vraiment le temps de questionner les impacts que pourraient générer ces technologies envahissantes. Nous vous proposons donc de questionner ces systèmes et pour nous aider à formuler nos idées, nous allons nous appuyer sur un concept développé par Jacques Ellul dans son livre « La technique ou l'enjeu du siècle » qui paraît en 1954, « L'autonomie des techniques ». Jacques Ellul est un penseur de la technique du XXe siècle. Il a théorisé ce qu'on appelle l'autonomie de la technique. La technique serait devenue autonome, obéissant à ses propres règles et lois. Mais attention, autonome ne veut pas dire indépendant. La technique est toujours liée à d'autres systèmes, comme le système économique par exemple. L'autonomie de la technique, d'après Ellul, repose sur plusieurs éléments. D'une part, à ce qu'il nomme l'automatisme du choix technique. L'homme, une fois une technique développée et massifiée, n'a plus le choix de l'utiliser ou non. Les techniques s'imposent d'elles-mêmes. L'efficacité devient la valeur dominante. Nous n'avons pas de raison de ne pas utiliser une technique si c'est la plus efficace. Une fois qu'une nouvelle technique arrive, il n'est pas question de ne pas s'en servir. Par exemple, le GPS a été conçu à l'origine à des fins militaires et peu à peu a été intégré pour diverses utilisations et dans de nombreux systèmes. Dans un grand nombre d'applications de votre smartphone, dans votre véhicule. Une fois que la technique du GPS est là, qu'elle apparaît comme la plus efficace pour se localiser et se déplacer, comment ne pas s'en servir ? Ellul développe également le concept d'auto-accroissement des techniques, ou appelé aussi enchaînement des techniques. Une technique en entraînera une autre inexorablement, et sans que l'intervention de l'homme ne soit réellement possible pour l'empêcher. La technique ne dépend plus que d'elle-même, elle tend à se développer par elle-même, poussée dans des conditions qu'elle a déjà créées. Ce processus d'auto-accroissement se fait donc sans intervention décisive de l'homme, comme l'écrit Jacques Ellul. La technique n'est pas maîtrisée par des intentions humaines. Chaque innovation ouvre de nouvelles possibilités de restructuration, de recombinaison avec d'autres techniques. Elle crée de nouvelles potentialités qu'on utilise presque toujours et dont le développement nous échappe. L'invention de l'automobile, par exemple, a entraîné une multitude de techniques et d'infrastructures connectes. Les routes, les autoroutes, les stations-service, le développement de l'industrie pétrolière, les feux de circulation. Aujourd'hui, l'automobile électrique génère à son tour de nouveaux systèmes techniques, des bornes de recharge, des batteries au lithium. Ce processus d'enchaînement montre bien que chaque innovation appelle d'autres innovations. De la même manière, le développement d'Internet, devenu une infrastructure mondiale omniprésente, était aussi imprévisible à penser. Comment pouvons-nous imaginer le développement des réseaux sociaux, des cyberattaques, le nombre de nouveaux métiers liés à Internet, l'impact sur nos manières de communiquer et d'écrire ? Cela est d'ailleurs également explicable par le concept de la constitutivité technique, concept qui sera abordé lors de notre prochain passage à la radio et par nos collègues de H10. Pour Ellul, tout ce qui est techniquement faisable sera fait. L'humain n'aurait donc plus de contrôle sur la technique. Dans cette dynamique, les découvertes sont utilisées en général comme solution dans les secteurs qui ont motivé les recherches, mais aussi dans d'autres domaines. Les conséquences des avancées techniques sont très difficiles à estimer. L'enchaînement des techniques est imprévisible.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
L'autonomie des techniques ou l'enchaînement des techniques s'applique très bien au cas du développement de la vidéosurveillance algorithmique. Ce concept explique l'arrivée actuelle de la VSA dans nos espaces publics, mais explique aussi les perspectives de développement de cette technologie et les risques qui peuvent y être associés. En effet, l'augmentation massive des dispositifs de surveillance, comme les caméras installées dans les espaces publics, rend presque incontournable la nécessité d'utiliser des dispositifs d'analyse automatisés des images qui sont produites. On entre alors dans la dynamique que nous avons décrite précédemment d'enchaînement des techniques incontrôlées. Au lieu de se demander s'il faudrait réduire la quantité d'images captées, la question qui prend le dessus est comment traiter toutes ces données. Et avec la multiplication des caméras, l'œil humain ne suffit plus vraiment pour analyser ces images. Il devient en quelque sorte obsolète. Face à ce défi, la seule réponse semble être le développement et la massification de la vidéosurveillance algorithmique. Les algorithmes n'ont pas été conçus pour cette utilisation au départ, mais ils constituent des solutions efficaces pour les opérateurs de systèmes. Cet enchaînement des techniques qui nous a amené à l'ajout d'algorithmes à nos systèmes de surveillance n'est en fait pas terminé. Aujourd'hui, l'argument politique qui structure le discours sur la VSA est celui selon lequel la décision finale revient toujours à l'agent présent dans les centres de supervision urbains. Cet argument, il a un objectif clair, calmer les inquiétudes au sujet des biais des algorithmes et garantir que l'humain reste maître du système. Mais est-ce vraiment si simple ? Peut-on vraiment s'assurer qu'il n'y aura jamais de dérive ? Le problème, c'est que la massification des caméras intelligentes, ça va inévitablement augmenter le volume d'images et de données à traiter. Et avec cette exposition de données, les alertes générées par les algorithmes deviendront de plus en plus complexes, voire même difficiles à interpréter pour les agents humains. À force, ces derniers risquent d'être relégués à l'arrière-plan, non pas parce qu'ils seraient fondamentalement inutiles, mais parce qu'ils n'auraient plus vraiment accès aux logiques internes des systèmes qu'ils sont censés superviser. On assisterait à ce qu'on peut qualifier de suite d'enchaînement des techniques, avec le développement d'algorithmes plus poussés ou de nouvelles solutions d'automatisation, cette fois-ci de la prise de décision finale. Cette dynamique, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour encore. Et nous reviendrons d'ailleurs dessus à la fin de notre présentation. Cependant, au vu de l'historicité de l'autonomie des techniques, c'est une perspective à prendre en compte et à discuter, ce que se refusent encore à faire nombreux de nos politiques. Les JO de Paris 2024 ont été le prétexte parfait pour l'expérimentation de la VSA. Dans un contexte de menace sécuritaire, la nécessité d'agir vite et efficacement a conduit à légaliser l'installation de dispositifs de surveillance toujours plus sophistiqués. Ce cadre d'urgence, combiné à la promesse d'une automatisation fiable, a créé un terrain fertile pour légitimer la VSA. Officiellement, comme on l'a dit, cette expérimentation doit prendre fin en 2025. Mais une fois ces dispositifs testés, validés, il devient difficile de les abandonner. Si l'on sait que ces outils peuvent techniquement être mis en place, comment prétendre qu'ils n'existent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne deviendraient pas permanents et ne se massifieraient-ils pas? Ce phénomène, il n'est pas nouveau. Des dispositifs soi-disant temporaires et exceptionnels deviennent souvent permanents. On peut prendre l'exemple des fouilles liées au plan Vigipirate. Initialement conçues pour répondre à une urgence, elles font désormais partie de notre quotidien. Cette progression inexorable, elle peut être expliquée à travers la pensée de Jacques Ellul. Selon lui, comme nous l'avons expliqué plus tôt, tout ce qui est techniquement faisable sera réalisé. Une fois qu'une technique est rendue possible, elle finit toujours par s'imposer. Aujourd'hui, comme nous l'a rappelé le préfet de police de Paris dans l'extrait que vous avez entendu, la VSA en France est autorisée par la loi JO pour 8 cas spécifiques seulement. Mais cela pourrait être une étape transitoire. Si l'on sait qu'il est possible d'aller plus loin, il est probable que ces limites soient élargies à l'avenir. Pourquoi se restreindre à 8 cas si la technologie permet de couvrir plus de scénarios ? Concernant l'efficacité de la VSA, à l'heure actuelle, peu d'études méthodologiquement rigoureuses existent et leurs résultats restent hétérogènes sans démontrer une véritable efficacité. C'est ce que souligne le rapport de la Cour des comptes, selon lequel aucune corrélation globale n'a été révélée entre l'existence de dispositifs de vidéoproduction, protection, et le niveau de délinquance ou le taux d'élucidation des infractions. Des crimes, donc. Lors des Jeux Olympiques, un grand nombre de fausses alertes ont également été signalées par l'association La Quadrature du Net. Cela soulève des questions sur la fiabilité des systèmes de VSA utilisés. Comment expliquer alors l'expansion continue de cette technologie ? En réalité, si la VSA ne prouve pas encore une efficacité notable pour des détections spécifiques pour la réduction du crime, elle s'avère néanmoins précieuse pour renforcer un système de surveillance de masse. Elle offre à ce dernier de nouvelles potentialités de développement. Elle modifie le milieu dans lequel elle se développe et conforte les logiques dans lesquelles elle s'inscrit. Par ailleurs, peut-on considérer qu'elle est en elle-même une technologie autonome, efficace du simple fait de sa capacité à se maintenir et à se déployer dans de nombreuses villes, en France comme ailleurs? Chaque innovation ouvre la voie à de nouvelles potentialités. Donc, la technologie, en évoluant, crée ses propres conditions de développement. Et quand bien même les politiques affirment que cette technologie est contrôlée, la VSA ne s'arrêtera probablement pas aux usages actuels. Elle pourrait devenir un système de surveillance omniprésent, étroitement intégré à d'autres technologies comme la reconnaissance faciale ou l'intelligence artificielle prédictive. Maintenant que nous avons exposé les questions liées au développement de la VSA dans le cadre du concept d'autonomie des techniques de Jacques Ellul, nous allons réfléchir ensemble à d'autres conséquences possibles que pourra entraîner la massification de la VSA.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Puisque la VSA amène à un maintien de l'ordre assuré par une stratégie technologique spatialisée, cela réduit la nécessité d'une présence physique des forces de l'ordre dans l'espace public. Donc la présence policière directe dans les espaces publics pourrait se raréfier, la police étant informée en temps direct des situations suspectes et préférant peut-être intervenir de manière ciblée plutôt que de patrouiller de manière proactive. Cela pourrait provoquer une détérioration de la relation entre citoyens et forces de l'ordre, les agents apparaissant davantage comme des observateurs distants, lointains et intervenant uniquement pour des interpellations. Une présence policière réduite au moment de confrontation risque de renforcer un sentiment de surveillance et de contrôle plutôt que de proximité et de sécurité. En multipliant les systèmes de surveillance, ils apparaissent de plus en plus comme nécessaires pour garantir la sécurité dans l'espace public, justifiant l'augmentation des forces de l'ordre et de la surveillance généralisée. S'il n'y a pas de crime ou de délit, ce serait grâce au système de surveillance, mais en revanche, s'il s'en produit, c'est qu'il n'y a pas assez de caméras ou de forces de l'ordre. Par cette rhétorique, les systèmes de surveillance pourraient s'auto-alimenter et se justifier continuellement. Enfin, l'automatisation rend possible un changement d'échelle dans l'utilisation des caméras de surveillance. L'utilisation de la VSA permet de multiplier le nombre de caméras, puisqu'il existe à présent un système pour traiter avec moins d'agents présents dans les CSU ces données. Mais de manière générale, la VSA ne remplacera sans doute pas l'humain. Si les caméras sont de plus en plus importantes, les alertes le seront aussi et le contrôle policier également. L'automatisation du traitement vidéo permet de multiplier les dispositifs de surveillance, mais cette expansion pourrait exiger paradoxalement un nombre croissant d'agents pour gérer le flux de données. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, les alertes provoquées par les systèmes sont traitées par des agents. Aussi, plutôt que de réduire les effectifs, la VSA pourrait conduire à une augmentation du nombre de centres de supervision urbains et donc à une augmentation des agents nécessaires pour traiter ces données. Mais surtout, la VSA conduira à la création de nouveaux emplois dont aujourd'hui on ne peut connaître pour le moment l'utilité et les missions. Prenons un exemple, celui du macro-système technique lié à l'automobile. Ce système n'aurait pas pu se massifier à ce point sans l'automatisation de certains carrefours avec des feux de circulation. Auparavant, ces carrefours étaient gérés par des agents de police, dont certes le travail a été remplacé individuellement, mais aujourd'hui bien davantage d'hommes et de femmes travaillent dans le secteur de l'automobile, car celui-ci a été massifié et notamment grâce à ces carrefours. De la même manière, la VSA contribue au déploiement et au développement du secteur de la surveillance de masse. Aussi, l'automatisation ne semble pas remplacer l'humain, mais elle offre de nouvelles potentialités pour poursuivre l'industrialisation de la surveillance de masse. Le danger de la VSA ne réside pas dans les quelques cas qui sont autorisés par la loi des JO, mais dans l'élargissement programmé des cas d'usage et à terme, le projet d'une surveillance systématique et généralisée de l'espace public. En autorisant la VSA pour ces cas, nous ouvrons la porte à une dynamique où les techniques de surveillance s'enchaînent sans que leurs potentialités ou leurs impacts futurs ne puissent être pleinement anticipés.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Bien que notre discours ait pu vous paraître futuriste, voire dystopique pendant notre présentation, il est frappant de constater combien les éléments et les technologies que nous évoquons aujourd'hui peuvent rappeler le film Minority Report de Steven Spielberg, lui-même adapté de la nouvelle de Philip K. Dick, paru en 1956. À l'époque, les technologies décrites comme la reconnaissance faciale ou la police prédictive relevaient de la science-fiction. Pourtant, elles sont désormais une réalité ou en passe de le devenir dans plusieurs régions du monde. La police prédictive, qui constitue le cœur du scénario de Minority Report, est déjà devenue une réalité aux États-Unis, bien qu'à une échelle moindre. Dans le film, une technologie permet de prédire les meurtres et d'emprisonner les criminels avant qu'ils n'aient pu agir. Aujourd'hui, aux États-Unis, certains départements de police s'appuient sur des logiciels qui analysent des données criminelles passées pour produire des rapports prédictifs. Ces rapports incitent les patrouilles à surveiller davantage des zones spécifiques. En France, bien que cela reste encore limité, des expérimentations de logiciels prédictifs ont été menées, et cela depuis 2017. Dans Minority Report, il existe des failles dans le système de prédiction conduisant à l'emprisonnement d'innocents. Ce sont ces failles qui provoquent son effondrement, au final. Aujourd'hui, avec la VSA, nous sommes face à une situation similaire. Les données concrètes manquent pour prouver une réelle efficacité dans la réduction de la criminalité, et pourtant, la machine est déjà en marche. Si les failles des systèmes de VSA ne suffisent pas à enrayer leur déploiement, il devient alors crucial de développer des outils militants et politiques pour permettre d'anticiper les impacts de la VSA, questionner sa légitimité et essayer d'en limiter les dérives. Les travaux de la Quadrature du Net et de Technopolis nous ont aidés à construire notre discours. Ces associations proposent des pistes d'action et de réflexion pour lutter contre la VSA, mais aussi plus largement contre la surveillance et la censure.
Merci beaucoup à toutes les trois. C'était donc Pauline Blanc, Rose Cressot et Lucie Rousselot-Payet dans le cadre du cours H10 de l'Université de technologie de Compiègne. Alors vous nous avez parlé donc de vidéos de surveillance algorithmique et vous avez utilisé ce contexte pour nous montrer un exemple, illustrer les concepts d'autonomie et d'enchaînement technique que l'on travaille notamment dans le cadre de ce cours et d'autres cours à l'UTC. Donc merci encore à toutes les trois pour cette présentation. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet ou un des autres sujets traités dans le cadre du cours, vous pouvez trouver les travaux écrits des étudiants en ligne à l'adresse lonum.scenari-community.org/HE10. Vous trouverez notamment les références bibliographiques mentionnées. Vous pourrez réécouter cette émission sur Graphite www.lesbiennesdu.net d'ici quelques temps, et d'ici quelques temps également, quelques jours disons, sur le réseau de vidéos libres et décentralisées PeerTube à l'adresse aperi.tube. Je vous donne à présent rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouvera à partir de 10h30, donc à nouveau sur Graphique 94.9 ou Graphique.9 ou Graphique.net, pardon. Et donc, on aura trois émissions. Une sur les fermes verticales, d'étranges constructions qui se montent même ici en Picardie et pas dans un roman, en vrai, qui vise à nous faire manger des insectes. On parlera également de méga-bassines en lien avec bien l'actualité de résistance à ce type de méga-structure. On verra si les concepts du cours nous aident à prendre parti, peut-être à y voir plus clair, ou peut-être également celui de le concept de technologie zombie qu'on a vu aujourd'hui en cours nous aiderait. Et puis, on parlera également d'intelligence artificielle, d'IA musicale, en plein cœur des nouvelles technologies. Et donc, on pourra se poser la question de la création artistique avec des IA ou même directement par des IA. Eh bien, merci encore à toutes les trois. Merci à tous les étudiants pour ce travail. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
The one thing we need more than hope is action.
HE10, pensez la conception technologique à partir du livre « Prendre soin des milieux » paru aux éditions Matériologiques.